c'était l'instant crucial contre lequel ma mère m'avait mise en garde. J'ai jeté autour de moi des coups d'œil désespérés, incapables de lui répondre, et j'ai vu approcher un jeune homme. C'était comme si un petit portail sur le futur s'était ouvert pour laisser sortir le garçon de Brooklyn qui avait choisi le collier persan, telle une réponse à une prière adolescente. J'ai immédiatement reconnu ses jambes légèrement arquées et ses boucles folles. Il portait une salopette et un gilet en peau de mouton, autour de son cou, des rangs de colliers de perles indiennes, un jeune berger hippie. J'ai couru vers lui et lui ai pris le bras. « Salut, tu te souviens de moi ?»«
Bien sûr, » il a souri.
« J'ai besoin d'aide. Tu veux bien faire semblant d'être mon mec ?» J'ai lâché d'une traite.
« Bien sûr, » a-t-il répondu, comme si mon apparition soudaine ne le surprenait pas le moins du monde. Je l'ai traîné jusqu'aux fans de SF.
« C'est mon copain, » j'ai dit sans reprendre ma respiration. « Il me cherchait, il est furieux, il veut que je rentre tout de suite. » Le type nous a jeté un regard interrogateur. « Cours !» j'ai crié. Le garçon m'a pris la main et nous nous sommes enfuis. Nous avons traversé le parc et sommes ressortis de l'autre côté. Hors d'haleine, nous nous sommes laissés tomber sur le perron d'un immeuble bas. « Merci, tu m'as sauvé la vie, » j'ai dit. Il a accueilli la nouvelle avec un air perplexe. « Je ne me suis jamais présenté. Je m'appelle Patty. Moi, c'est Bob. »« Bob, » j'ai dit, le regardant vraiment pour la première fois. « Je ne sais pas pourquoi, mais je trouve que tu n'as pas une tête à t'appeler Bob. » « Ça te dérange si je t'appelle Robert ?» Le soleil s'était couché sur l'avenue B, il m'a pris la main et nous nous sommes promenés dans l'East Village. Il m'a acheté un egg cream à James Spa, au coin de St. Mark's Place et de la 2e avenue. C'est moi qui faisais les frais de la conversation. Il se contentait de m'écouter en souriant. Je lui ai raconté des histoires de mon enfance, les premières d'une longue série, l'histoire de Stéphanie, l'histoire de la parcelle et l'histoire du dancing de l'autre côté de la route. J'étais surprise de me sentir tellement à l'aise et en confiance avec lui. Il m'a avoué plus tard qu'il était en plein trip d'acide. Ma connaissance du LSD se résumait à des passages de Collage, un petit livre d'Anaïs Nin. Je ne savais rien de la culture psychédélique qui florissait à l'été 67. J'avais une vision romantique des drogues et les considérais comme sacrées, réservées aux poètes, aux musiciens de jazz et aux rituels indiens. Robert ne semblait absolument pas altéré ou bizarre. Il dégageait un charme doux et espiègle, timide et protecteur. Nous avons marché jusqu'à 2 heures du matin, et finalement, presque en même temps, nous nous sommes avoués que nous n'avions ni l'un ni l'autre d'endroit où dormir. Ça nous a fait rire. Mais il était tard, et nous étions fatigués. « Je crois que j'ai une idée », a-t-il dit. Son ancien colocataire était en vacances. Je sais où il cache ses clés. Je ne pense pas que ça le gênerait. Nous avons pris le métro pour Brooklyn. Son ami vivait dans un petit appartement sur Waverly, près du campus du Pratt Institute. Nous avons emprunté une allée où il a trouvé la clé cachée sous une brique descellée et nous sommes entrés. À l'intérieur, nous avons tous deux été subitement pris de timidité. Pas tant parce que nous nous retrouvions seuls ensemble que parce que nous nous trouvions chez quelqu'un d'autre. Robert s'est employé à me mettre à l'aise, puis, malgré l'heure tardive, il m'a demandé si j'aimerais voir ses travaux qui étaient entreposés dans une pièce du fond. Il les a étalés sur le sol pour me les montrer. Il y avait des dessins, des gravures, et il a déroulé plusieurs toiles qui m'ont fait penser à Richard Poussette Dart et à Henri Michaud. Des énergies multiples rayonnaient des mots et des lignes calligraphiques entremêlées. Des champs d'énergie construits à partir de strates de mots, des peintures et des dessins qui semblaient émerger du subconscient. Il y avait une série de disques qui entremêlaient les mots « égo »,« amour » et « Dieu » fondus avec son propre nom. Il semblait produire un flux et un reflux sur ces surfaces planes. En les observant, je n'ai pu m'empêcher de lui parler des nuits de mon enfance quand je voyais des motifs circulaires irradier le plafond. Il a ouvert un livre sur l'art tantrique. « Comme ça ? » a-t-il demandé. « Oui. » J'ai reconnu avec stupéfaction les cercles célestes de mon enfance. Un mandala. J'ai été particulièrement émue par le dessin qu'il avait fait à la date du Memorial Day. Je n'avais jamais vu quoi que ce soit d'approchant. La date m'a frappée également, le jour de la fête de Jeanne d'Arc, le jour précisément où je m'étais promis de faire quelque chose de ma vie devant sa statue. Quand je lui ai raconté, il m'a répondu que le dessin était le symbole de son propre engagement vis-à-vis de l'art, réalisé le même jour. Sans hésitation, il me l'a donné, et j'ai compris qu'en ce bref laps de temps, nous avions l'un comme l'autre renoncé à notre solitude pour faire place à la confiance.